Il ne veut pas être dérangé dans son confort par un nouveau-né qui viendrait hacher sa nuit, qui viendrait lui demander de donner un peu de son pouvoir d'achat plutôt que de le mettre dans un voyage à Bali ou que sais-je. Il faut assumer de se dire « bon, eh ben oui, un enfant va me demander de l'effort, une forme de sacrifice ». Et ces idées-là, aujourd'hui, elles sont inconcevables.
Azilise Lecor, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes essayiste et journaliste, vous êtes membre du comité éditorial de Civilisation et vous êtes venu nous parler de l'article que vous allez publier dans notre premier numéro fin septembre. Cet article s'intitule « Un état nounou sans bébé, comment l'état-providence nuit à la natalité ?» Alors dans tous les pays riches, la natalité baisse. Plus de confort, c'est moins de mortalité infantile, c'est un moindre besoin de compter sur ses enfants pour assurer ses vieux jours. C'est une croissance davantage fondée sur le progrès technique. Pourtant, vous proposez une explication complémentaire à la baisse de la natalité dans les pays riches et remettez en cause l'état-providence. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Alors en effet, la crise démographique que nous connaissons et le phénomène de dénatalité qui l'accompagne est plurifactoriel. On ne peut pas simplement dire que c'est la faute d'un état nounou ou que sais-je. C'est en partie, à mon sens, une des causes. Pourquoi ? Parce que non seulement nous avons à la racine décomposé les familles en faisant croire que la structure de base de la société n'était pas la famille nucléaire telle que nous la connaissions et que nous pouvions nous reposer sur une structure supérieure qui est l'État-providence. Et donc cela a permis de finalement saper tous les lieux de solidarité qui pouvaient exister entre la sphère privée, c'est-à-dire familiale, et la sphère publique tournée autour de l'État. Or aujourd'hui, nous avons des familles décomposées et plus de lieux de subsidiarité dans lesquels on peut se retrouver, créer du lien. Et ce sont des lieux qui sont nécessaires aussi pour créer, favoriser ce qu'on appelle des villages. Et donc, à mon sens, permettre aussi de maintenir le lien et de donner envie de faire naître des enfants dans ce monde. Or, quand on pense que l'État peut tout, non seulement on n'est plus responsable, et en plus on voit vite les limites aujourd'hui de cet État qui ne peut pas tout.
Quand vous dites « nous », vous pensez à qui ? Est-ce que vous pensez que c'est une dynamique qui vient de l'État en premier lieu, ou bien est-ce que c'est une demande de la société ? Au fond, est-ce que il n'y a pas une aspiration à l'individualisme qui vient d'en bas, à laquelle l'État ne fait que répondre ?
Vous avez soulevé la question de la modernisation, et c'est un phénomène, la baisse de la natalité, qu'on observe en fait à partir de l'entrée dans la modernité tardive, à part cette parenthèse qui a été le baby boom et qui vient dans un contexte d'après-guerre particulier. Certes, la natalité a été à ce moment-là très soutenue par les politiques publiques. Moi, je continue de croire qu'il faut que l'État accompagne les familles, qu'elle leur permette de faire naître le nombre d'enfants qu'ils souhaitent en aidant les familles, notamment d'un point de vue fiscal, mais aussi par une autre politique du logement et de la mobilité, puisque ce sont en fait des politiques plus générales et pas seulement les politiques familiales qu'il faut repenser. Mais à mon sens, ça ne suffira jamais, parce qu'il y a ce déclic, si vous voulez, nécessaire de se dire « mais je suis aussi responsable de ma propre famille et je ne peux pas penser qu'on fera le travail à ma place ». Or, quand on pense à cette question, aujourd'hui, finalement, on a à la fois un esprit du consommateur, et cet esprit du consommateur, il espère pouvoir répondre tout le temps à ses moindres désirs. Donc, il ne veut pas être dérangé dans son confort par un nouveau-né qui viendrait hacher sa nuit, qui viendrait lui demander de donner un peu de son pouvoir d'achat plutôt que de le mettre dans un voyage à Bali ou que sais-je. Et donc, on aimerait que l'État puisse compenser. Toujours. Il y a un moment où je crois qu'il faut assumer de se dire « bon, eh ben oui, un enfant va me demander de l'effort, une forme de sacrifice ». Et ces idées-là, aujourd'hui, elles sont inconcevables.
Alors, le phénomène de dénatalité, on l'observe dans d'autres pays que les pays riches. Ce qui est assez frappant aujourd'hui, c'est que même en Chine, alors bon, qui est un pays qui s'est beaucoup enrichi, mais qui est considéré comme faisant partie du sud global, en Inde, de même, on observe une baisse de la fécondité. Pourtant, dans ces pays, eh bien, les structures traditionnelles sont présentes, sont très présentes. L'État-providence l'est beaucoup moins. Comment l'expliquez-vous? Comment expliquez-vous qu'on retrouve le même phénomène de d'individualisation, finalement?
Nous avons parlé de la modernisation, donc ça compte énormément. L'accès aussi à l'éducation des jeunes filles, et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut considérer comme positif, je crois. Toutes les deux, on ne dira pas le contraire. L'accès aussi au monde du travail pour les femmes. Néanmoins, et ça, d'autres spécialistes l'interrogent aujourd'hui. On n'a pas la réponse. Par exemple, je pense au travail de Vera Nikolsky, qui explique très bien, de manière scientifique aussi, comment est-ce que la modernisation de nos conditions de vie ont conduit à finalement en finir avec le patriarcat, qui était nécessaire à un moment pour que l'humanité puisse progresser. Donc nous n'avons pas la réponse à ces questions aujourd'hui. On ne sait pas comment est-ce qu'on va faire pour combattre la dénatalité qui met en péril l'humanité et particulièrement l'Occident, puisque moi je me suis intéressée essentiellement à l'Occident. Et on voit bien que non seulement notre système social aujourd'hui n'est pas pensé pour répondre à cette question de la dénatalité, pour survivre avec ce non-remplacement des générations. Et puis par ailleurs, il va falloir aussi imaginer un monde qui ne se renouvelle pas, non seulement par les idées, parce que l'enfant est un acte politique aussi, dans le sens où il est toujours celui qui permet de réinventer et d'espérer que les lendemains seront meilleurs. Or, aujourd'hui, on peut observer dans nos sociétés une forme de mal-être généralisé où on se dit que finalement, les lendemains ne chanteront plus. Et ça, je trouve que c'est très intéressant aussi à analyser et ça révèle d'une crise tout à la fois culturelle et morale.
Alors, vous dites ça et en même temps, l'humanité a traversé des crises terribles, bien, bien pires que ce que nous vivons aujourd'hui, finalement. Et pourtant, malgré tout, les gens ont continué à faire des enfants. Les gens ont fait des enfants pendant les guerres, après les guerres, alors qu'ils auraient pu avoir perdu tout espoir. Comment vous expliquez cette espèce de dépression un peu molle, finalement, que nous traversons?
Je pense qu'en effet, il n'y a plus d'idéal. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui permet de surmonter cet état dépressif dans lequel nous sombrons. Et je dis « nous » parce que c'est à la fois l'Occident, mais c'est aussi ma génération, en fait, quand je dis « nous », puisque c'est... Là, je peux me référer aux travaux de Pierre Valentin, qui a écrit un ouvrage remarquable sur la question du mal-être de la Gen Z, donc des individus nés après 95, qui ont connu l'arrivée du smartphone, qui ont connu le Covid, donc ils sont restés enfermés. Oui, absolument, moi, je suis née sans smartphone et c'est arrivé à peu près au moment de mon adolescence. Donc, j'ai quand même une enfance préservée. Et en fait, on voit bien que ce n'est pas le cas pour les nouvelles générations qui arrivent. Donc, il y a une grande responsabilité de la question des écrans dans le fait de finalement de couper des liens humains et de nous enfermer dans nos bulles aussi et de ne plus savoir aller vers l'autre. Donc je pense qu'il y a profondément une crise de l'altérité et un manque d'idéal commun. C'est-à-dire que pourquoi faire des enfants si finalement ils seront soumis aux aléas climatiques, à la guerre, si cela n'est pas dépassé, transcendé par une question... je pense qu'il nous dépasse et qui appelle à une forme d'espérance que nous n'avons plus aujourd'hui.
Alors, je vais me faire l'avocat du diable. Certains pourraient vous dire que, finalement, la dénatalité n'est pas forcément un problème, que le progrès technique compense la baisse de la démographie. Au fond, pourquoi faire des enfants? Et je n'invente pas ces arguments, je les ai beaucoup entendus.
Ben oui, mais peut-être qu'ils souhaitent un monde avec des robots et des machines, et puis un monde avec des vieux et des robots. Ça, on peut tout à fait l'imaginer. Absolument, mais ça, c'est fantastique. Et puis, puisque nous n'aurons plus le temps après de nous occuper de nos enfants, pour les quelques-uns qui naîtront, on demandera à des robots de leur donner le biberon, et peut-être même que nous naîtrons finalement dans des utérus artificiels, comme certains l'avaient déjà imaginé bien avant nous. Mais moi, en effet, c'est pas la société que je souhaite, que j'espère. Je pense qu'on peut quand même considérer que ce qui fonde profondément notre humanité, c'est ce lien qui nous relie aux autres. Et dans l'expérience de la maternité, de la paternité, ce lien de l'altérité est éprouvé de manière exponentielle, de manière extrêmement puissante. Et je pense que c'est même presque indépassable parce qu'on fait l'expérience de cette altérité qui, quand on est une femme, surgit à l'intérieur de nous. Ensuite, il y a cette rencontre incroyable avec son nouveau-né, et qui toute personne qui est parent en fait pourra vous dire que c'est quand même peut-être l'expérience la plus grande qu'ils ont pu faire dans leur vie. Et je pense que ce lien-là peut nous sauver parce que l'enfant est toujours celui qui vient nous remettre en question, nous aussi en tant qu'adultes, avec nos certitudes, avec oui des convictions finalement qu'on n'interroge plus. Et lui, il vient en grandissant poser des questions de petits philosophes, nous interroger pourquoi les feuilles tombent, pourquoi d'où est-ce que je viens, pourquoi est-ce que je suis ici. Et on pensait un peu avoir fait le tour de ces questions, ou du moins avoir trouvé quelques réponses pour patienter jusqu'à la mort. Et en fait, l'enfant, nous, et le premier philosophe, il est celui qui nous dit, mais finalement, tu dois presque apprendre à mourir pour m'accompagner dans cette vie. Et ça, je trouve que c'est fantastique, et une machine ne le remplacera jamais.
Est-ce que vous avez déjà réussi à convaincre quelqu'un qui ne voulait pas faire d'enfant d'en avoir ?
Alors, je serais prétentieux de dire que j'ai convaincu, mais en effet, j'ai rencontré surtout des femmes qui m'ont... Alors, pour les femmes, il y en a beaucoup qui ont été me voir et qui m'ont dit, en fait, ça me fait du bien d'entendre ton témoignage, juste de mère aussi, donc de voir qu'en fait, c'est quelque chose qui est beau et pas seulement ce qu'on peut décrire aujourd'hui, à savoir la galère du postpartum, des complications qui peuvent exister, certes, pendant la grossesse, mais qui... Une femme qui, en fait, qui dit que c'est beau hein, d'avoir des enfants jeunes aussi. Et pour les hommes, ça, c'est assez drôle. C'est très masculin, ce que je veux dire. Mais alors, eux, ils se réveillent. C'est-à-dire qu'ils pensent que ça les concerne pas vraiment. Et quand je donne parfois des conférences, ils viennent me dire « Ah, mais je pensais que c'était un peu l'affaire des femmes. Et il faut que moi aussi, je me pose la question de mon engagement. Quel est mon rôle ici-bas? Qu'est-ce que je veux faire ?» Et peut-être qu'en effet... je concevais beaucoup, on me parle d'argent quand même, c'est plus masculin que j'ai l'impression que féminin. Je voulais faire du fric, mais peut-être que le premier engagement, c'est quand même aussi de m'engager avec quelqu'un et de fonder une famille.
Alors, vous parlez justement de la responsabilité individuelle dans votre article. Vous appelez aussi les individus à se prendre en main finalement et à prendre leur responsabilité. C'est un peu paradoxal puisque vous critiquez hein, l'individualisme et en même temps, vous dites que finalement, c'est l'individu qui est la clé. C'est l'individu qui est le seul moyen de raviver la société civile. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ?
Mais je pense que moi, je ne m'oppose pas du tout à l'individu. Au contraire, je pense que l'individualisme est une forme de crise de l'individu. Un individu qui est nié, qui est une forme de consommateur avec un esprit déjà préformé, qui est donc une sorte de photocopie, qui fait comme tout le monde en pensant être unique. Et au contraire, un individu qui est capable de savoir qui il est, en tout cas qui est dans cette recherche, de savoir qui il est, quelle est sa mission aussi pour les autres, parce qu'en fait c'est ça toute la nuance, c'est est-ce qu'on vit en décidant d'être dans une forme de rabougrissement sur soi-même, ou est-ce qu'au contraire on se tourne vers l'altérité ? C'est pour ça que ça ne se limite pas, en fait, ce que je dis, à être père ou mère. C'est une ouverture à l'autre et à ce qu'on peut faire pour la vie en commun, pour le bien commun. Et moi, ça, j'y crois beaucoup. Et je pense qu'on ne peut pas se défiler en disant, finalement, ma vie me va très bien. Je pars en voyage tous les mois. Voilà, je vais à la salle de sport entre midi et deux. C'est cool, quoi. Enfin, c'est vrai que la vie, elle peut passer comme ça. Mais il me semble que ça n'a pas beaucoup de sens et que... et que c'est très égoïste. C'est là où est l'égoïsme. En revanche, se questionner de qu'est-ce que je peux faire pour apporter quelque chose de plus à ce monde, parce que finalement, la société dans laquelle je suis née, il y a des choses que je souhaite préserver parce que je les juge bonnes. Je crois que c'est la mission que chacun doit se poser. Et c'est ce qu'on apprenait quand on était au collège en cours d'éducation civique, mais ça n'a pas suffi.
Est-ce que vous pensez qu'on dit toute la vérité aux jeunes femmes, aux jeunes hommes, quand ils grandissent sur ces sujets? Parce qu'au fond, ce sont des sujets qu'on évite. On va leur faire comprendre que la parentalité, enfin, le fait d'être parent, est quelque chose d'assez difficile, mais on reste assez flou. Je vais être très, très concrète, mais un des problèmes aujourd'hui de la baisse de la natalité, c'est que les femmes font des enfants de plus en plus tard. Est-ce qu'il faudrait suggérer, je ne sais pas comment, hein, je ne prétends pas le faire, mais aux femmes d'essayer de faire des enfants plus tôt, sans être paternaliste. Et qu'est-ce que vous pensez de ce sujet ?
Alors moi, c'est un de mes grands combats, c'est de simplement je ne veux pas qu'on dise aux gens ce qu'ils doivent faire, mais je veux qu'on leur dise la vérité. Juste, ouais. Une femme, elle est féconde. Là, on lui demande d'être le plus active dans sa carrière, donc il faut qu'elle le sache et qu'elle ait bien en tête que, à partir de 30 ans et de manière plus violente à partir de 35 ans, sa fertilité baisse. Les hommes, certes, ils ont un peu plus de temps que les femmes, mais eux aussi, ils sont soumis à cette horloge biologique, contrairement à ce qu'on peut penser. Et donc, à partir de 40 ans, chez un homme, ça baisse aussi drastiquement. Moi, je veux simplement que les gens aient ça en tête et qu'ils ne pensent pas que la technique va être la solution. Beaucoup de femmes, et c'est aujourd'hui, on voit un thème qui est porté par Emmanuel Macron, avec la question de la lutte contre l'infertilité, qui est un beau combat, mais on ne va pas lutter contre l'infertilité en congelant ses ovocytes. Il faut savoir qu'une PMA, c'est une sur deux qui fonctionne, et que plus on attend, plus on avance en âge, eh bien, plus c'est difficile de tomber enceinte. C'est simplement aujourd'hui une réalité qu'il faut prendre en compte, et je pense qu'on va faire souffrir beaucoup de gens en leur faisant croire que ils pourront toujours, à 50 ans, devenir parents. Non, c'est pas ça la vie. Et la question aussi, je pense qu'on doit se poser, et ça, j'ai pas de réponse, mais est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est souhaitable d'accueillir un enfant quand on aura plutôt l'âge d'être grand-parent? Et est-ce que c'est souhaitable pour les parents? Parce que, pour le coup, on en fait beaucoup sur la question du postpartum, de la fatigue, mais je pense qu'on est, de fait, plus à même d'accueillir un enfant quand on est jeune que quand on est âgé. Et puis, est-ce que c'est souhaitable pour l'enfant?
Alors, pour revenir sur la question de la société civile, donc vous avez évoqué l'importance du lien, du village, de la communauté finalement qui entoure des parents qui ont des enfants et une communauté qui vient les aider finalement. Est-ce que vous avez des idées pour essayer de raviver cette communauté-là? Comment on fait aujourd'hui quand on a d'un côté des individus, des monades, et de l'autre un État? Et les deux s'entretenant mutuellement. Comment on fait pour recréer quelque chose entre les deux, bon, qui s'appelle la société civile?
Ce sont des choses qu'on peut observer énormément dans des lieux, des communautés déjà constituées, je pense aux communautés religieuses, avec les paroisses, voilà, des lieux où il y a des communautés qui se comprennent, qui se rejoignent. Je pense que ces communautés, elles peuvent se recréer par d'autres biais que des biais religieux, elle se recrée d'ailleurs par les biais associatifs, par exemple. Et ça, en fait, beaucoup de gens sont encore engagés dans des associations, dans des clubs sportifs. Et je pense qu'il faut continuer, en fait, demander aux parents de s'y engager et d'essayer de recréer ce lien quand on sait qu'aujourd'hui les familles sont éclatées géographiquement, que les gens se rencontrent, en fait. Simplement essayer de recréer des lieux de rencontre. Et je pense que ça fera beaucoup. Évidemment, ça va pas relancer la natalité, mais ça va recréer du lien et ça va peut-être permettre parfois de se dire non seulement je suis pas seule là-dedans dans cette aventure. En plus, parfois, je sais que beaucoup, en fait, un des grands enjeux, c'est de faire des enfants, mais plutôt de passer du deuxième au troisième pour compenser la baisse globale. Et parfois, si on est aidé, si on est accompagné, s'il y a d'autres familles aussi autour de nous, on a des modèles, des références. Donc ça peut nous aider aussi à sauter le pas.
Et alors, est-ce que dans ce contexte, l'État ne peut pas avoir un rôle intelligent à jouer?
Bien sûr. Je pense que l'État doit favoriser peut-être l'aide à des associations qui le permettent, par le biais, et ça existe déjà, mais je pense que c'est quelque chose qui doit s'amplifier, notamment des PMI qui aident les jeunes mères qui sont isolées à se rencontrer. Mais il faut que ce soit fait davantage, qu'il y ait plus de moyens pour le coup, et que les mairies soient des partenaires de ces lieux-là. Et dans ce que j'ai, parce que c'est un sujet qui m'intéresse et je prospecte un peu, c'est quand même aujourd'hui extrêmement inégal en fonction de d'où vous êtes dans le territoire et de simplement qui dirige la localité. C'est pour ça que je crois aussi beaucoup aux initiatives privé et à la possibilité même de passer par des associations, mais par je pense que quand ça vient du bas, c'est-à-dire que si des parents se disent il faut qu'on crée des lieux où nous on peut se rencontrer, ce sera peut-être plus facile que quelque chose qui leur tombe dessus d'en haut.
Azilise Lecor, merci beaucoup d'être venue nous parler de votre article pour Civilisation. Je rappelle son titre, « Un État nounou sans enfants, comment l'État-providence nuit à la natalité ». Nos lecteurs pourront vous lire dans le premier numéro de Civilisation qui paraîtra fin septembre.
Merci à vous, je suis ravie.